genre de...
Quel genre ?
Grande gueule.
Icône.
Dans le genre.
Femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me les casse.
Puissant.
Masculin.
Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Macho.
C'est pas mon genre.
Dans le genre, l'émission qui vous plonge au cœur de l'identité et des genres. Une émission de Géraldine Saratia.
Germain Louvet, est-ce que vous vous trouvez viril ?
Je ne me trouve pas spécialement viril et j'en suis assez heureux. Je dois dire que je considère que c'est... la virilité, c'est un peu comme une prison dont j'ai toujours été content de m'échapper.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le genre. Je reçois ce soir Germain Louvet. Germain Louvet a 26 ans, il est danseur à l'Opéra de Paris. Il en est même une des stars. Il a été nommé étoile en décembre 2016 par l'actuelle directrice Aurélie Dupont après sa performance dans Le Lac des Cygnes sur une musique de Tchaïkovski. Alors c'est le couronnement d'un parcours fulgurant. Louvet commence à danser à 4 ans, intègre l'école de l'opéra à 12, le corps de ballet à 18, avant d'atteindre donc ce fameux Graal à 23 ans. Et si j'ai eu envie d'inviter ce garçon à la plastique parfaite, que l'on aperçoit souvent dans les pages mode des magazines, c'est pour qu'il nous parle de son parcours, bien sûr, du ballet, de la perception encore souvent très genrée de la danse, de la relation qu'il entretient avec son corps. Et puis j'avais aussi très envie qu'il nous parle de sa façon d'intégrer dans sa danse la conscience qu'il a de son genre, de sa sexualité, de ses identités. Comment perçoit-il le regard qui est porté sur lui, sur sa masculinité, quand il danse ? Comment incarne-t-il en 2019 un personnage de prince, inventé et écrit quelques siècles plus tôt ? Comment parvient-il à lui donner un écho contemporain ? Alors voilà, on va parler de tout ça au cours de cette émission. Mais pour l'heure, retour sur son parcours, sur son enfance. Ce soir, je vous invite à passer une heure dans le genre de Germain Louvet.
Nova.
Dans le genre. Genre.
L'enfance.
J'ai grandi à Givry, en Bourgogne, vers Chalon-sur-Saône. J'ai grandi dans une famille de 3 enfants, et avec mes 2 parents. Une famille, tout ce qu'il y a de plus normal dans le sens hétéronormé du terme, plutôt heureuse, on se retrouve assez souvent, on s'aime beaucoup. Et je suis dans un endroit plutôt viticole, donc ma famille au sens large, mon grand-père était viticulteur, donc ça a été retransmis après par la suite aux générations suivantes, dans une autre branche que la mienne, et donc j'ai baigné dans le rythme des vendanges, et puis des saisons très marquées, parce qu'en Bourgogne on a vraiment chaque moment à sa couleur, à sa température et à ces moments de plaisir pour des enfants qui peuvent du coup jouer dehors et profiter de la nature.
Et alors si on parle un peu de vos parents, vous disiez une famille hétéronormée, bon, votre père par exemple, qu'est-ce que vous diriez de lui ? Quel type d'homme c'est par rapport aux normes du masculin ? Qu'est-ce qu'il faisait votre père ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pardon, j'en parle au passé toujours parce que c'est dans la perception passée. Mais...
Mon père, il a toujours aimé la terre, il a toujours aimé la nature, il a fait un lycée agricole, il a ensuite travaillé en tant qu'arboriculteur en Corse, et puis de fil en aiguille, il s'est retrouvé à travailler dans une grande boîte, mais toujours dans le milieu de l'agriculture, dans le milieu du vin plus précisément, évidemment, du coup ça prend plus son sens, et il a toujours aimé, on a un très grand potager, on a un très grand jardin, c'est son loisir, c'est sa passion. Il aime passer du temps à dessiner, on va dire, l'espace naturel qu'il y a autour de chez nous. Et il aime beaucoup aussi se promener. Enfin, il fait beaucoup de sport, sport d'endurance. Pour parler de lui plus au sens large, c'est pas du tout la figure paternelle, autoritaire, ultra viril, ultra castrateur qu'on pourrait parfois avoir. C'est un homme très doux et très sensible qui m'a toujours fait me sentir libre d'être qui je voulais être. Et en fait, il a dans sa douceur une très belle force, une belle puissance en tant que personne que j'admire beaucoup. Et voilà, on a une relation très, très douce et très fluide.
Et qu'est-ce que vous diriez de votre mère ? Quel type de femme c'est votre mère ?
Ma mère, c'est une femme également très sensible qui a également beaucoup de force en elle, qui s'est toujours positionnée en égale avec mon père, même si elle aime parfois marquer la différence entre ce qu'elle est en tant que femme et la différence entre ce que mon père est en tant qu'homme. Il y a une certaine malice dans cette manière de le faire remarquer, comme si on jouait un peu à des rôles, mais que au fond il y a une parfaite entente, un parfait équilibre. Et c'est vrai que elle était esthéticienne avant que je naisse. Elle a arrêté à ma naissance, et donc elle a quand même une notion de la féminité
telle qu'elle a été construite, en tout cas.
Telle qu'elle était construite, exactement. qui m'a toujours beaucoup amusé et en même temps parfois fasciné, parce que elle joue avec ses codes, sans même peut-être en avoir conscience, avec beaucoup d'aisance. C'est-à-dire que elle aime se maquiller, elle aime se faire belle, avoir des beaux habits, des habits en tout cas féminins dans le sens construit du terme. Et en même temps, à côté de ça, elle a un côté très terre à terre, pas du tout féminine dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire s'il y a un mauvais sens à ce terme, c'est-à-dire soumise ou pas libre, en tout cas, de faire ce qu'elle veut.
Et votre père, lui, il renvoie des signes de virilité ou pas forcément, en fait?
Non,
en apparence, il est comment?
Pas forcément. Non. En apparence, il est... C'est, bon, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours un peu de mal avec le principe de virilité. Donc, je dois dire que je mets même un point d'honneur à ne pas le reconnaître en tant que tel.
Ouais.
Mais en tout cas, s'il faut parler de cette posture qui est un petit peu induite à notre système d'éducation, on va dire, par des années d'histoire, je trouve que mon père n'est pas du tout dans ce système-là. Il est très simple dans sa manière de s'exprimer et dans sa manière d'être. Il est pas du tout, il emploie pas des postures de mâle alpha.
Non. OK. Alors on va écouter un premier titre que vous avez choisi pour nous, Germain, qui c'est un titre justement qui renvoie un petit peu à vos années d'adolescence au moins, mais alors c'est Supertramp, ce Logical Song sur Nova.
Logical, respond.
là, c'était Super Trump sur Nova. C'est un choix de notre invité, le danseur étoile Germain Louvet. Germain, vous me disiez, elle vous renvoyait à une époque, cette chanson.
Oui, elle me renvoie au dimanche matin. C'était un peu une manière douce et agréable de nous réveiller, je pense, à la maison, que mes parents mettaient cette musique. Ils étaient assez fans, eux, ils aimaient beaucoup. Et je me souviens que j'ai beaucoup dansé dessus, dans mon salon, dans mon jardin. Voilà.
Alors, on parlait un petit peu de votre famille, enfin, de vos parents, qui tous les deux avaient l'air assez doux. Vous étiez quel type d'enfant ?
Alors, moi, au contraire d'eux, j'étais un enfant plutôt hyperactif, plutôt caractériel, sans être non plus un enfant à problème. Mais quand même, j'ai souvent des gens qui m'ont côtoyé quand j'avais entre 0 et 3 ans, qui me disent « Ouh là là, t'as bien changé, quel calme, etc. » Je passais beaucoup de temps à crier, à pleurer. Et même mes parents me racontent parfois ce que je faisais. Je me jetais en arrière, c'était presque des gestes suicidaires, par colère. Enfin voilà, j'avais beaucoup de choses à exprimer.
Et comment vous vous êtes positionné, vous, par rapport au... justement aux normes du masculin quand vous avez grandi, petit garçon, et puis ensuite quand vous êtes devenu adolescent? Est-ce que ça a été une identité qui a été compliquée à prendre pour vous? Pas du tout. Enfin, comment vous l'avez vécu?
Je l'ai vécu de manière assez autarcique, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, de manière vraiment assez seule. C'est-à-dire que je me rends compte que j'ai été assez fermé à ce que la société me renvoyait de ce qui était un homme, une femme, etc. Je n'ai jamais trop évolué en fonction des codes qu'on est amené normalement à... Enfin, pas normalement.
Des codes dominants, quoi, en tout cas.
Des codes dominants, c'est ça. Qui peuvent nous influencer vis-à-vis des autres et tout. Moi, j'ai toujours été plutôt dans cette sorte d'autisme ou en tout cas de naïveté qui me permettait de ne pas comprendre quand les autres ne me comprenaient pas.
Mmh. Vous aviez la sensation d'avoir des codes différents ?
Oui, en fait, moi j'ai commencé de faire de la danse dans un petit club de mon village à 4 ans.
Ouais.
Et j'entendais parfois « Ah Germain, on va t'appeler Germaine, c'est un truc de fille, etc. » Même si ça n'a pas été non plus hyper récurrent, mais j'entendais ça. Et en fait, j'en avais pas honte du tout, je comprenais pas. Je me disais « Bah, je comprends pas, je fais de la danse, je suis un garçon, donc les garçons peuvent faire de la danse, puisque... Mmh. » Enfin voilà, j'avais cette pensée un peu logique, quoi.
Et ça vous attaquait, justement, c'est quand
ça m'attaquait pas du tout.
Traiter de fille, quand on vous disait...
C'était pas du tout une blessure.
Ouais.
C'était plus une blessure, parfois, de fierté, quand tout seul, je me rendais compte de certaines choses a posteriori. Une sorte de mélange de honte, d'ego, enfin d'ego d'enfant, en tout cas, de fierté et de dignité, et en même temps un peu de dégoût. Voilà, d'un coup, ces choses-là pouvaient remonter, mais très rarement, dans des moments de solitude. Moi, quand j'étais petit... je dirais entre 0 et 8 ans, je me sentais pas vraiment défini dans mon identité sexuelle. C'est-à-dire que parfois, j'avais l'impression d'être une fille.
Ouais.
J'étais même étonné dans le miroir de voir que j'avais les cheveux rasés.
Ah ouais ?
Ouais, c'était vraiment... J'ai des flashs comme ça où j'étais presque étonné de ce que j'avais dans ma culotte, quoi. C'était... Je saurais pas dire pourquoi, je pense pas que ça ait de lien avec... ça a des liens avec comment je me suis construit, mais je pense pas que ça ait de lien après avec ma sexualité ou avec d'autres choses.
Avec votre identité sexuelle, oui.
Voilà, avec mon orientation sexuelle qui s'est tout à fait bien définie et posée, on va dire, très naturellement
après.
À l'adolescence. Ouais. J'ai pas fait du tout de rejet de mon corps et de ce que je suis devenu. Mais voilà, je me souviens juste que j'oscillais entre ces mondes et que j'avais des parents suffisamment ouverts et à l'écoute de ce que j'étais pour me laisser libre.
Et alors, vous faisiez de la danse. Est-ce que vous restiez aussi beaucoup avec d'autres garçons ? Vous avez des activités plus classiquement, des activités comme on dit de garçons ou pas du tout ?
Eh ben, pas du tout.
Ouais.
Non, j'avais plutôt des activités dites de filles.
Comme on dit, dites, parce que ça n'a pas de sens.
Non, c'est ça qui est amusant, c'est de voir ce qui devrait être et de se rendre compte que ça n'a justement pas trop de sens. Moi, je faisais de la danse et après, je sais que j'étais parfois... mes parents, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu une différence entre mes frères et moi.
Et
j'ai deux frères. Ouais, et les deux sont assez sportifs et les deux ont fait du cyclisme assez rapidement. Il y en a un qui est presque professionnel, donc qui est toujours à Donf. Et donc, je me souviens que ma mère, elle disait toujours « Ah, Germain, c'est le sensible. Germain, il aime faire des travaux manuels avec moi. » Donc, on faisait des trucs en paire, on faisait de la déco, des trucs manuels, etc. Et c'est vrai que mes frères, ils étaient plus à faire du bricolage dans le garage ou à rafistoler leur vélo.
Ouais.
Voilà. Et donc, résultat des courses, je sais absolument rien faire de bricolage chez moi. Merci papa, merci maman.
Et donc, vous disiez votre sexualité s'est imposée à vous de manière assez naturelle à l'adolescence. Vous avez fait d'ailleurs votre coming out à vos parents suite à un chagrin d'amour, je crois.
Oui, exactement.
Et ça s'est passé assez facilement pour vous ?
Alors, ça, je dirais pas que ça s'est passé facilement. Mm-hmm. Je pense que c'est malheureusement très rare que ce soit
facile,
complètement,
ouais.
Enfin, facile. Ouais. Dans le sens que ça puisse être pour un adolescent qui soit hétérosexuel.
Aussi facile, vous voulez dire
aussi
que ça
facile,
ne
puisse...
Oui,
d'accord. Même si je pense que en fait la découverte de sa sexualité, elle est difficile pour tout le monde de toute manière. Mais moi, j'ai quand même à un moment donné, il y a eu une vraie période de remise en question et une vraie période de guerre contre moi-même. Je dirais quand même qu'entre 12, 13 et 15, 16 ans, je me battais contre mes désirs, que je me forçais à penser à autre chose que ce qui me faisait fantasmer. Et quand je
vous disiez que vous pourriez être avec des filles.
Ouais, bien sûr. Voilà, ouais, et je m'imaginais avec des filles. Ouais. En plus, j'étais à l'internat, donc évidemment, on discute. Même si c'était un internat de l'école de danse de l'opéra, donc
mixte,
et puis de danseurs et de danseuses, donc quand même un milieu plutôt ouvert sur la question des sexualités. Voilà, entre ados, on est entre ados, et c'est vrai que j'essayais d'être. Enfin, je voulais être un peu comme tout le monde, ou en tout cas comme la société m'avait dit qu'il fallait être. Je voulais avoir une femme un jour, des enfants, etc., etc. Et en fait, tout ça, c'est à déconstruire, je pense que petit à petit, pendant ces 3 ans, brique par brique, je les ai enlevées. Parfois j'en ai remises, parfois j'en ai renlevées. Et à la fin, en fait, ce qui fait peur, c'est le néant. C'est qu'est-ce que je vais devenir ? Parce qu'en fait, quand t'es un jeune garçon, même si t'as des parents hyper ouverts, la société te donne pas de moyens d'imaginer comment tu peux construire ta vie autrement qu'en étant
entendu. Justement, trouver d'autres modèles de construction de vie, d'autres modèles. Justement, j'allais vous poser la question de modèles identificatoires. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais c'est aussi des modèles grâce auxquels on se construit. L'adolescence, c'est hyper précieux. Vous, en dehors de la danse, justement, qui était une grande passion, est-ce qu'il y avait des figures qui vous plaisaient ? Je sais pas, qui soient dans le cinéma, qui soient dans la pop musique, des figures de masculinité et de féminité ?
Alors, moi, j'ai eu plusieurs découvertes. Quand j'étais vraiment petit, genre vers 10 ans, j'avais demandé à mes parents un DVD du spectacle de Madonna. Je sais pas ce qui me fascinait chez Madonna. Je pense que c'est cette...
pas le seul, hein.
Oui, et c'est ça qui me fait rire, c'est que je me dis, il y a malgré tout, même pour ça, une petite construction derrière, peut-être, mais elle représentait, je pense, une certaine force, une certaine... une queeritude, si je puis dire, qui déjà me touchait, alors même que j'étais pas du tout dans ces modes de pensée-là, d'autant plus dans le milieu rural. Je pense que c'est très important aussi de parler de milieu rural, parce que même si je fais aucune différence dans ma tête, etc., je pense que on n'évolue pas de la même manière, enfin en tout cas dans le même environnement, à la campagne et dans les grandes villes, et en tout cas à Paris. Et ça a été aussi pour moi un vrai appui quand j'ai découvert
quand je suis arrivé à Paris,
j'ai rencontré d'autres gens qui étaient comme moi, qui aimaient la danse, etc., d'autres champs des possibles. Donc pour revenir au modèle, il y a eu aussi une rencontre avec Christophe Honoré quand j'ai vu Les Chansons d'amour, que j'avais, je sais pas, 16 ans, un truc comme ça, 15 ans. Et alors,
c'est en 2007, Les Chansons d'amour.
C'est 2007, voilà. Donc j'avais, bon, peu importe, j'avais 14-15 ans. Et voilà, c'est juste en fait voir un autre cinéma, même si aujourd'hui j'ai été, je pense, beaucoup plus loin dans ce que je vais voir, etc. Et même si j'ai beaucoup d'affection pour les films de Christophe Honoré, je dis pas toujours que c'est excellent, mais en tout cas, ce film-là, ça m'a vraiment touché. Je pense que le jeu de Louis Garrel aussi, sa désinvolture, son érotisme assez ambigu aussi.
Sa masculinité, justement.
Mais une masculinité très, justement, très ambigu, très douce,
très sensible.
Très sensible. Je pense que voilà, ça a été... Et après, il y a eu les films de Xavier Dolan, bien sûr, quelques années après, où j'ai découvert Les Amours Imaginaires. Et là, je me suis dit, mais en fait, il existe un autre esthétisme, une autre esthétique de la sexualité et un autre esthétique des amours, des possibilités.
Dans le genre.
Dans le genre.
Vous êtes toujours sur Nova, vous êtes toujours dans le genre du danseur étoile. Germain Louvet. Alors, on va continuer cette émission, on va continuer de parler de son parcours, de sa perception du monde de la danse, et de la danse par rapport à la perception genrée de la danse, justement, de son expérience, de la masculinité. Mais avant, on écoute un petit peu de musique, c'est un titre qu'il a choisi pour nous, et c'est Lou de Christophe. Voilà, c'était Christophe sur Nova, Lou, c'est un choix de notre invité, Germain Louvet. Alors, oui. Je crois que vous avez un souvenir à coller à cette chanson.
Oui, j'ai choisi cette chanson parce qu'elle me fait toujours beaucoup penser à mon meilleur ami d'adolescence, j'ai envie de dire, même s'il est toujours très proche de mon cœur aujourd'hui.
Quand vous étiez à l'opéra déjà ?
Quand j'étais à l'opéra.
Ouais. À 12 ans, vous êtes entré à l'opéra.
Exactement, à 12 ans, de 12 à 18 ans, j'étais à l'école de danse et donc j'étais avec Lou, qui était mon meilleur ami et qui est un garçon d'une singularité extraordinaire. Et je pense que le côtoyer, ça m'a, c'est ce qui m'a le plus, je pense, permis de voir l'amitié autrement. Et quand je parle d'amitié, je parle de, finalement de relations avec les autres, avec moi-même, avec le monde extérieur. Et Lou, il a cette sensibilité qui fait de lui, physiquement en tout cas, ni vraiment un homme, ni vraiment une femme, ou en tout cas les deux. On passait beaucoup de temps à se marrer parce qu'il s'habillait souvent dans le rayon féminin, même s'il prenait des trucs un peu unisex. Et il rentrait tout le temps en boîte gratuitement parce qu'il mettait des talons de sa copine pour rentrer. Tout le monde l'appelait mademoiselle et j'adorais ça et c'est vrai que parfois il me mettait aussi face à mes propres contradictions. Parfois on s'engueulait parce que j'étais là, mais tu vas aller jusqu'où, etc. Puis après je me rendais compte que j'étais débile et que c'est lui qui avait raison. Enfin bref, voilà. C'était ouais. Cette chanson de Christophe.
Parce que vous en parliez un tout petit peu en première partie, mais quand vous êtes arrivé à l'Opéra, donc à Paris, à 12 ans, vous disiez c'est la première fois que j'ai rencontré un peu des garçons et des filles un peu comme moi. C'était, ça ressemblait à quoi? C'était un endroit où il y avait beaucoup de liberté, finalement, dans l'expression en tout cas de ça ou de ses identités, en fait.
Alors je dirais que contrairement à ce qu'on pense, finalement c'est assez normal, c'est assez. Comme dans les autres collèges et les autres lycées, je vais dire entre nous, même si évidemment, on sait très bien que c'est pas tout à fait normal, puisqu'on est tous choisis sur des critères physiques, sur notre rigueur, notre discipline, etc. Mais il n'y a pas, je trouve, une énorme liberté, même à l'école de danse de l'opéra, d'être qui on veut être. En tout
c'est
cas,
très genré, finalement.
C'est très genré. De toute façon, ouais, la danse classique, le ballet est très genré. Ouais. Ça, on peut en parler aussi.
Oui, on va en parler.
Et on va en parler. Mais en tout cas, à l'école de danse, moi je me suis très vite senti à l'aise, et ça je pense que c'est ma personnalité, avec mes amis, avec les gens que je côtoyais, et ce qui m'a permis aussi de vivre mon coming out de manière assez agréable, pour le coup, en tout cas sans violence, mais quand même il y a de la cruauté entre les adolescents, je pense que ça c'est juste inhérent à cette période.
Vous êtes danseur de ballet, c'est un genre très particulier, parce qu'effectivement, il n'y a pas non plus la danse, il y a des danses différentes, avec des expressions assez différentes. Et vous me disiez, le ballet, c'est très genré.
Bah oui, bien sûr, le ballet. Alors, les codes du ballet tels qu'on les utilise aujourd'hui sont basés sur une histoire qui va de Louis XIV à aujourd'hui, mais qui s'est vraiment fixée, et en tout cas qui a connu son apogée deuxième moitié du 19e, avec les grands ballets romantiques, à commencer par La Sylphide, Gisèle, et petit à petit Le Lac des Cygnes, La Belle au Bois Dormant, Casse-Noisette, etc. Et déjà, en fait, il y a des codes physiques très, très différents. La danseuse, elle porte des pointes, elle met souvent des tutus ou des jupes, des robes, etc. Et elle a un langage qui est très différent. Une manière de se déployer, de s'exprimer avec son corps, avec ses bras, beaucoup plus douce et beaucoup plus fluide que le danseur masculin. Le danseur masculin, lui, on va lui demander d'avoir beaucoup plus de puissance. En tout cas, on demande aussi aux femmes d'avoir beaucoup de puissance, hein. Mais c'est plus une puissance dans la qualité, dans la précision.
Ouais, elles en ont une, en tout cas. Elles sont obligées.
Ah, bien sûr,
elles ont une énorme.
D'ailleurs, voilà, on peut en parler aussi, les danseuses.
Elles dissimulées sous de la douceur, mais elles ont
bien
une
sûr,
énorme.
Moi,
c'est
mes
des
collègues,
athlètes, ouais.
Je les trouve extrêmement puissantes, extrêmement impressionnantes. Quand je parlais de puissance, je parlais juste de puissance, on va dire, d'élévation de saut, par
bien
exemple,
sûr,
ou de charisme, pour porter. Les danseuses. Donc voilà, l'homme va avoir ce rôle assez terre à terre, relié au sol, et qui va du coup s'occuper, entre guillemets, de la danseuse. Et la danseuse, elle a le rôle de s'élever vers le ciel. Les pointes, c'est ça en fait, hein, c'était pour avoir une ligne encore plus épurée, encore plus gracieuse, et pour défier visuellement la gravité. Donc ça sera l'homme qui va faire ce lien entre la gravité et le ciel pour la danseuse. Et au-delà de ça, évidemment, ces danseurs, ils ne sont pas là que pour danser, ils sont là pour interpréter des rôles. Et ces rôles, ils racontent très souvent des histoires d'amour dramatiques qui finissent assez souvent mal.
Avec des princes. Vous jouez très souvent des princes.
Exactement. Soit c'est avec des princes et soit c'est avec des princesses. C'est finalement rarement les deux, princes et princesses. C'est souvent des histoires assez intéressantes aussi socialement, puisque dans Gisèle, par exemple, c'est un prince qui aime se balader dans le village des vendangeurs pour admirer la belle Gisèle, qui est une villageoise et donc pas du tout une personne de son rang social. Et donc il va évidemment la courtiser, fricoter avec elle, il va lui jurer qu'il l'épousera, alors qu'en fait tout le monde sait très bien qu'il ne pourra pas, qu'il est promis à une autre fille de son rang. Et Gisèle, qui est cardiaque et qui adore danser, devient folle, se met à danser et meurt.
Et alors vous, qu'est-ce qui vous a attiré justement dans ce monde-là? qui, si on le regarde très rapidement et si on s'attache juste à la description que vous venez d'en faire, a l'air d'être un monde très classique finalement, avec des répartitions de rôles très genrées. Et vous, vous vous retrouvez, jeune homme aujourd'hui de 25, 26 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, à interpréter des princes. Enfin, il y a un côté désuet finalement, il y a un côté... Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans ?
C'est vrai qu'il y a, il y a un vrai paradoxe. On est obligé, en tant que jeune personne, donc pour moi, de 26 ans, de se poser des questions. Qu'est-ce que j'interprète ? Pourquoi ? Comment je le fais ? Comment je le fais aujourd'hui à un public de 2019 et surtout comment moi je l'interprète en
avec
tant
vous,
que...
votre corps, votre voilà, identité, votre masculinité, identité, votre sexualité.
Exactement.
Danser, c'est aussi tout ça, on danse avec tout
bien
ça.
Bien sûr, parce que parfois j'ai l'impression d'interpréter sur le papier des rôles qui sont complètement en inadéquation avec ce que je suis. Donc en fait, il s'agit là de et c'est ça qui est fort et qui est beau dans la danse, c'est d'utiliser son corps comme une arme pour aller chercher... En fait, pas comme une arme, plutôt comme
un outil
et comme un moyen d'expression, un amplificateur d'expression, d'aller chercher ce que l'on est et en fait s'approprier l'histoire pour que l'histoire devienne la nôtre et que finalement on la remodèle avec notre mouvement, avec notre regard, notre interprétation.
J'avais envie qu'on parle un petit peu de la perception de la danse. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif aujourd'hui, on entend toujours ce truc, ouais, c'est un truc de fille, tout ça. Si on regarde un peu l'histoire de la danse, on sait que tout ça est faux, que la danse a commencé par être plutôt un truc socialement masculin. En tout cas, c'était même un endroit où les hommes venaient montrer leur valeur sociale, leur virilité même quasiment, enfin montrer qu'ils étaient des hommes. Et le ballet, d'ailleurs, à sa naissance en fait au XVIe siècle, est également pratiqué par des courtisans majoritairement et donc des hommes qui jouaient des rôles de femmes, qui jouaient des rôles de travestis. Et puis, il y a une espèce de révolution qui s'opère en 1830, où là, tout d'un coup, la société change économiquement, socialement, la perception des genres va changer et la danse va également en être transformée. On écoute Hélène Marquier.
Ce paradoxe se mettant en place, la danse va devenir l'univers féminin par excellence et donc réservé aux femmes. Je dis « et donc réservé aux femmes » puisque un homme ne peut plus danser. Si un homme danse, il va être contaminé en quelque sorte par la féminité. Il va devenir ce qu'un critique Jules Janin appelle une affreuse danseuse du sexe masculin. Et donc, un homme, écrit le même Jules Janin, n'a pas le droit de danser.
Voilà, c'était Hélène Marquier, une sociologue de Paris 8, en fait, qui a beaucoup travaillé sur la danse, et qui dit ça, un homme n'a pas le droit de danser. Alors, elle parle de ce qui s'est passé en 1830, mais elle dit que cette perception, elle a continué un petit peu à se propager, en fait. C'est quoi votre réaction ?
C'est assez impressionnant d'imaginer que, justement, c'était une forme de virilité d'être un danseur...
Pendant de
très nombreuses années, exactement. Et que c'est devenu l'opposé. Et en fait, ça me questionne, justement, par rapport à ce que c'est qu'être viril. En fait, ce que c'est qu'être viril, c'est mouvant. C'est totalement une question de construction d'époque et d'historique. Et donc, pour revenir à la danse, c'est vrai qu'il y a eu toute une période où danser était référé à être une grande folle. C'était ça. D'ailleurs, il y a un imaginaire qui est posé parfois à l'opéra, au ballet, qui est tout à fait, qui est très convenu, très maniéré, etc. Et c'est complètement lié à un imaginaire collectif désuet et dépassé. D'ailleurs, nous, à l'Opéra de Paris, on a pu, grâce à Nourieff, revaloriser énormément la place du danseur masculin. Lui, il était donc danseur dans les années 50 et il a fait, après des mises en scène, il a remis au goût du jour un petit peu les grands ballets classiques, comme Le Lac des Cygnes, La Belle au Bois Dormant, enfin, toutes les grandes pièces du répertoire romantique. Et il a repositionné l'homme dans sa technique et dans sa place par rapport à la femme. Sur un plan d'égalité, je vais même dire que ces personnages féminins ont pris aussi de la force à être mis sur ce plan d'égalité.
Alors, on parlait du ballet, on parlait de l'opéra, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'opéra, vous ne faites pas uniquement que du ballet, mais que l'opéra, depuis une quarantaine d'années, s'est ouvert à des formes de danse plus contemporaines. Et par exemple, l'an passé, vous avez travaillé avec Ivan Pérez, un chorégraphe espagnol, The Male Dancer. C'était une pièce qui réfléchit justement à la masculinité. On écoute Ivan Pérez nous en parler.
I wanted to ask the dancers if they are aware of what they portray when they are on stage, what they mean, and how can they emphasize masculine images in a social context, or how can they actually transgress them? And I wanted to ask them to create that question here, to open that question, to maybe appear differently and be aware of what the impact that can have.
Voilà, c'était Ivan Pérez, donc un chorégraphe espagnol avec qui vous avez travaillé l'an passé, ouais. Et donc qui dans ce projet voilà, voulait interroger, enfin que les danseurs interrogent un petit peu la masculinité, la façon dont ils apparaissaient sur scène. Ils étaient habillés par Palomo Spain, je crois, le créateur, et donc avec certains, avec des costumes très extravagants, entre guillemets, ou très féminin justement,
ouais, très almodovarien,
voilà, qui cassait un peu avec les codes de l'habillement des danseurs traditionnels de l'opéra, ouais. C'est un projet qui vous a intéressé ? C'est ces questions-là qui vous intéressent ?
Oui, oui, complètement. En fait, la position, en effet, la position qu'on a sur scène, la position physique, la position politique qu'on va avoir, qui peut se transmettre énormément aussi par le costume, par le maquillage, par le mouvement, bien sûr, est primordiale et très intéressante. C'est vrai qu'Ivan Pérez, il a réussi à faire quelque chose d'assez nouveau, parce que c'est quand même pas, on est d'accord que c'est quand même pas un sujet nouveau. Ça fait longtemps que les gens, des philosophes parlent de cette question, du genre, de la masculinité, de la féminité, etc. Mais c'est vrai que dans la danse, il n'y a pas, en tout cas, à l'Opéra de Paris, on n'a pas souvent l'occasion de remettre en question ces choses-là, et c'est très intéressant de le faire. Et ça a été une chose très, très, je trouve, intéressante qu'Aurélie Dupont, notre directrice, en voulant choisir ce chorégraphe, elle a pris un risque dans le sens où il n'était pas forcément très connu, etc. Et je trouve que c'est très bien qu'elle l'ait fait.
Et justement, ce chorégraphe espagnol dont vous parliez, il disait quelque chose dans une interview. Il parlait de lui, d'abord de son expérience en tant que danseur. Il disait « Je me demandais si j'étais assez masculin, si le public se rendait compte que j'étais homosexuel, si je devais bomber le torse et avoir l'air fort. Et en tant que chorégraphe, j'ai vu que les danseurs se posaient ces mêmes questions, même quand ils étaient hétérosexuels. » Est-ce que vous posez cette question du regard qui est posé sur vous et de cette espèce de scan genré qui est posé sur vous quand vous dansez ?
Bien sûr, on se la pose. En tout cas, je me la posais. J'essaye de ne pas me la poser aujourd'hui. D'autant plus en des rôles qui demandent, de par leur histoire, Basilio dans Don Quichotte, qui est un petit voyou, qui est vraiment facétieux, qui est plutôt... les grands interprètes de Don Quichotte sont plutôt des interprètes virils, puissants, forts, etc. Et donc, en allant chercher dans mon intégrité, dans mon authenticité, je ne sais pas si le résultat, c'est pas moi qui est là pour le juger, mais en tout cas, moi, à l'intérieur, j'ai eu l'impression d'être à l'aise dans ce rôle qui n'était pas de passe.
Oui, parce que vous me disiez au tout début de l'émission, je vous demandais si vous trouviez viril, vous me disiez pas du tout, et même je suis assez fière de rester en dehors de ça. Donc vous vous sentez, pour reprendre un mot qu'on entend souvent, assez fluide dans votre
identité.
Exactement.
Oui. Parce que je dirais pas non plus que je me sens maniéré. Enfin, en tout cas, peut-être que d'autres me perçoivent comme
vous
ça, j'en sais rien.
Vous ne trouvez pas qu'on dit efféminé, c'est pas ça que vous direz.
Ouais, en plus, je déteste le mot efféminé, je trouve que ça veut rien dire. Enfin, c'est le monde à l'envers, quoi.
Bien
je veux dire. Mais non, je me sens pas. Enfin, en fait, entre nous, je m'en fous. Je crois, c'est ça surtout.
Alors, vous l'avez dit dans plusieurs interviews, en fait, donc, vous ne faites pas mystère de votre homosexualité, vous avez bien raison.
Sûr.
Et vous avez confié que vous aviez envie d'avoir des enfants, en fait. Vous êtes pour la GPA, vous sentez la société évoluer comment par rapport à ces questions-là ?
Je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement délicat, qui est extrêmement sensible. Je pense que je n'ai pas défini ma réponse. Je pense que je ne sais pas si je la définirai un jour. Moi, personnellement, j'aimerais en effet beaucoup avoir des enfants.
Ouais.
Et c'est le cas aussi de la personne avec qui je vis. Donc c'est voilà, un projet qu'on peut essayer d'imaginer ensemble. Naturellement, je serais plutôt pour adopter un enfant qui est déjà là, qui demande juste à avoir des parents. Malheureusement, en France, c'est quand même si c'est officiellement légal, autorisé et qu'on peut le permettre, c'est malheureusement dans les faits pas vraiment encore le cas.
Ouais, c'est très compliqué.
Ce serait mentir que de dire que la France est un pays qui accepte totalement que des couples homosexuels adoptent des enfants. Donc la question de la GPA, elle se pose. Après, en fait, la question du droit à l'enfant, elle est hyper complexe. Elle est hyper complexe quand elle implique le corps de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'à la fois, moi, je suis pour avoir la liberté de choisir de ce qu'on fait avec son corps, et donc si on a envie de porter l'enfant de quelqu'un d'autre, si on le fait pour des bonnes raisons, raisons, c'est-à-dire pas uniquement pour l'argent et pas uniquement pour des raisons qui viennent du fait qu'on est dans la misère ou dans une misère psychologique, sociale, etc. Là, la question se pose, mais malgré tout, je ne suis pas une femme, je n'ai pas d'utérus, et donc je considère aussi que par-dessus ça, je n'ai pas toutes les clés pour pouvoir avoir un vrai pouvoir décisionnaire. Donc voilà, je laisse cette question pour moi en débat. En revanche, je pense que c'est une vraie erreur de l'écarter du débat, et ça, je trouve ça bien dommage.
On écoute un titre que vous avez choisi, c'est Drôle d'époque de Clara Luciani.
Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu marches même pas droit. T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière. T'as pas l'air d'une femme. D'une femme. Où sont passés tes seins? Ta combrure de félin. Tantôt mère nourricière, tantôt putain vulgaire. Conduis-toi comme une femme. Comme une femme. Comme une femme. Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules, pas les épaules. Pour être une femme de mon. Tu voudrais voir en moi ta mère et ta sauveuse. Que je porte ma croix en restant amoureuse. Mais je sais pas être cette femme. Cette femme. Être cette femme. Moi, j'ai pas le temps. Pas les épaules pour être une femme de mon époque. On vit vraiment une drôle d'époque.
Voilà, c'était Clara Luciani sur Nova. Germain Louvet, quel rapport vous entretenez avec votre physique ?
Un rapport d'amour et de haine tout à fait...
Ambivalent, alors.
Tout à fait ambivalent et tout à fait contre ce que je prônerais qu'il faut avoir comme rapport à son
pourquoi
corps.
Pourquoi ? Expliquez-nous un peu.
Je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut arrêter de se demander tout le temps si on est assez bien, assez grand, assez musclé, assez beau, etc. Et pourtant, je le fais.
Cette pression que vous vous mettez à vous-même,
ouais.
elle tombe
non,
pas.
Moi, déjà, je passe beaucoup de temps devant le miroir quand je danse et c'est pas par choix, hein, c'est parce que le miroir est là et qui nous aide à corriger les défauts, mais qui, du coup, exacerbe les défauts moi, ça fait donc 20 ans que je vis avec mon reflet pour regarder le moindre centimètre qui dépasse, etc. Et donc, ça crée forcément des petits complexes, des petits trucs. Après, je suis tout le temps dans cet oscillement entre des moments où je décide de m'en foutre complètement et de m'accepter comme je suis, des moments où je me trouve très beau et où je suis très content de moi, et des moments où je suis complètement déprimé, où je me trouve vraiment pas comme il faut. Donc voilà, je pense que Enfin, j'ai un rapport à la fois sain parce que je me fais pas du mal non plus, mais à la fois je pense qu'il pourrait l'être encore plus.
On le disait, ça fait plus de 20 ans que vous dansez, même un peu plus, 22 ou 23 ans. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir eu une adolescence ou que vous êtes passé un peu à côté?
Alors, je pense que j'ai eu complètement une adolescence. Passer à côté, c'est être passé à côté des moments de doute, des moments de beuverie, de je vais chercher mes limites, je vais me droguer, me battre, etc. pour voir. Oui, je suis passé à côté de ça, c'est vrai. Après, savoir si je suis déçu d'être passé à côté de ça, je crois pas. Je crois que mon énergie a été assez canalisée dans ma passion.
Oui, c'est ça. On peut le dire, je pense, oui.
Ouais, et du coup, c'était ma colonne vertébrale. Ça a été une vraie aide, justement, dans ces périodes de doute et de questionnement pour me recentrer. En fait, le cours de danse, c'est une thérapie. Hein. Tous les jours, on se retrouve à la barre, à refaire pratiquement les mêmes exercices tous les jours, à retrouver nos mêmes défauts qu'on sait qu'on aura toute notre vie. Et en fait, c'est un petit moment où à la fois on se passe du baume sur le corps et à la fois on le brusque un petit peu, donc voilà, on est tout le temps dans cette
ambivalence là, ouais, cette dynamique là en
Exactement.
Tout cas. Qu'est-ce que vous mettez en avant pour séduire vous?
Pour séduire,
hein. Ouais.
Mon naturel. Je dis ça, mais franchement rien. Enfin, je sais pas.
Attendez, dites votre corps un peu là.
Alors d'accord, mon corps.
Soyez honnête.
Oui, non, c'est vrai. J'ai peut-être un peu. Si, enfin, je le mets pas en avant. Je connais des parties. Enfin, j'assume totalement d'avoir des parties de mon corps que j'aime et que j'aime mettre en avant. Mais voilà, j'en fais pas plus non plus. En fait, surtout moi, ce qui m'a hantise, c'est que l'autre ne voit pas ce que je suis. Alors moi, j'essaye juste d'être ce que je suis, et si l'autre, ça lui plaît pas, bah, je passe à autre chose.
Est-ce que vous auriez aimé être une femme?
Franchement, parfois, ouais. Je dirais pas que j'aurais aimé être une femme dans l'absolu. Je suis très content d'être un homme, d'être ce que je suis. Mais en fait, j'aurais aimé... j'aimerais avoir un jour un corps, un jour
faire cette
un genre,
là.
Exactement.
Ouais, ouais.
J'aimerais tenter, mais pas que être une femme. Hein. J'aimerais être trans. J'aimerais aller plus loin, voir autre chose.
Pourquoi pour expérimenter d'autres façons de se sentir,
ouais,
pour
au même titre que j'aimerais faire plein de rôles.
Ouais.
C'est vraiment ça pour moi. Ouais, d'autres expériences. Et je pense que. Alors dans l'absolu, j'ai quand même conscience que être un homme, c'est pas la même chose aujourd'hui dans notre société qu'être une femme.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Enfin, je suis d'accord avec vous, mais c'est pour que vous expliquiez.
Bah oui, bien sûr. Je veux dire que même si on avance grain de sable après grain de sable, on est quand même loin d'une parfaite égalité des sexes pour plein de domaines. Enfin, j'écoutais Virginie Despentes sur un podcast tout à l'heure, et c'est vrai que je me dis, mais il y a encore tellement de plans sur lesquels la dominance masculine s'exprime, s'exprime, que forcément, on peut pas être naïf et se dire que c'est pareil. Aujourd'hui, on a dépassé tous les problèmes. Non, il y a énormément de choses. C'est Thomas Piketty qui dit dans son dernier livre que il faudrait, au rythme que l'on prend aujourd'hui, à arriver à l'égalité salariale et de poste des sexes, ce n'est qu'en 2144 qu'on arrivera à une parfaite égalité.
D'accord.
Voilà.
D'accord, oui, donc vous dites effectivement c'est pas la même chose, mais c'est quelque chose, c'est une expérience qui vous attirerait en fait.
Exactement, ouais.
Vous seriez expérience. Quel type de femme, vous?
Je serais quel type de... Franchement, j'en sais rien. Je pense que je serais un peu pareil que ce que je suis en tant qu'homme, je pense. J'ai pas de... Je me sens tellement pas à mettre en avant le fait que je suis un homme.
Que ça vous semble pas très loin
de
vous.
Que ça me semble pas très loin de moi. Ouais. Et c'est marrant parce que là, d'un coup, je m'écoute et je me dis, je passe quand même beaucoup de temps au quotidien à avoir l'air d'un homme dans la danse, dans ce que je fais.
Incarner ces rôles-là.
Rôles-là. Et pourtant, je le fais avec beaucoup de naturel. Donc je me dis que finalement, il faut pas être si pessimiste parce que moi en tout cas je me sens tout à fait accepté par mes pairs et j'ai pas l'impression dans ma danse d'être brimé ou d'être obligé de ressembler à autre chose que ce que je fais.
Est-ce que vous auriez aimé être un homme très différent de celui que vous êtes?
Parfois oui, parfois j'aimerais être beaucoup plus J'aimerais être beaucoup plus sûr de ce que je suis. Parfois, j'aimerais être plus musclé. Parfois, j'aimerais être plus maigre.
C'est plus des caractéristiques.
Parfois, physique, j'aimerais aussi être plus intellectuel dans le sens de la pratique. C'est-à-dire que l'intellect, dans la danse, on le travaille beaucoup de manière innée, c'est-à-dire sur l'expression de ce qu'on va vouloir dire, de nos mouvements, etc. Mais en fait, c'est quand même un effort à faire, et je pense qu'en fait, c'est le cas pour tout le monde, hein, de toute façon. Mais de vouloir s'ouvrir au monde, de vouloir comprendre notre société, de vouloir s'ouvrir à l'art en général, à la culture et tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment envie d'exploiter aussi cette connaissance-là. Donc, je le fais de manière tout à fait personnelle et amateur. Mais je pense que je profiterai de ma deuxième partie de vie, parce que la danse a une fin. Le corps, à un moment donné, dira stop. En tout cas, stop pour la forme qu'elle a aujourd'hui.
Bien sûr.
Et je pense qu'à ce moment-là, je choisirai une voie qui me permettra d'exploiter un peu plus, d'aller s'enrichir et d'aller voir aussi plus loin.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Elle a été réalisée par Benoît Thuot. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. D'ici là, soyez unique en votre genre. Bonne soirée sur Nova.
Dans le genre.
Dans le genre. Une émission à retrouver en podcast sur nova.fr.